Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver sur Enjoy Orange pour une nouvelle émission. Lors de la précédente émission, disponible en podcast sur studiozef.fr, nous avons parlé des origines du e-sport et du jeu League of Legends. L'e-sport se structure comme une pratique à part entière et se professionnalise avec ses codes, ses joueurs pouvant gagner jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an, ses nombreux tournois nationaux tels que la Gamers Assembly à Poitiers ou encore la Lyon e-sport à Lyon, qui attire chaque année près de 25 000 personnes, et aussi ses compétitions internationales, dans lesquelles les meilleurs joueurs du monde s'affrontent, attirent des dizaines de milliers de personnes.
Quel regard portez-vous sur l'évolution du e-sport ces 5 dernières années ?
Ça a beaucoup évolué. On a eu en 5 ans le passage, on va dire, entre une activité qui était très confidentielle, et on va dire réservé aux amateurs pur cru. Et on a eu une sorte de déclic avec une ouverture vers les médias, une ouverture vers les sponsors, une ouverture vers le grand public. Il y a les JO qui s'y intéressent, il y a des médias mainstream comme L'Équipe, comme Beansport, comme Canal Plus qui s'intéressent à l'e-sport. Vous avez maintenant des sociétés comme la CNCF, comme EDF, comme Volvic, comme pas mal de clubs pro de foot notamment, qui s'intéressent de près à l'e-sport. Donc en 5 ans, je dirais qu'il y a une marche en avant vers, d'une part, une structuration des compétitions. Ça veut dire qu'avant, c'était un petit peu flou, la structure des compétitions. Maintenant, on va avoir un système un peu de division comme au foot, la Ligue 1, la Ligue 2, avec un championnat, avec des coupes. Voilà. On commence à se structurer d'un côté dans l'interne de l'e-sport. Voilà, ça devient de plus en plus carré. Et puis deuxièmement, il y a une crédibilité qui aussi, et puis c'est concomitant, enfin, une crédibilité auprès des sponsors et des grands médias. On va dire que c'est vraiment la grande évolution en 5 ans, et je pense que c'est un mouvement qui va s'amplifier dans les 5 prochaines années.
Est-ce que la loi pour une République numérique en 2016 a aidé aussi à l'évolution du e-sport ?
Bien sûr, notamment en termes de reconnaissance du statut des joueurs, en termes de reconnaissance de la pratique. Jusqu'à présent, il y avait un flou juridique qui existait sur la reconnaissance des compétitions e-sportives qui pouvait être assimilée à des jeux d'argent. Parce qu'en gros, dans l'esprit, c'était vous avez une mise, vous payez, on va dire, votre entrée, mais c'est considéré un peu comme une mise, et puis vous espérez gagner des gains à la fin. Voilà, donc c'était un peu assimilé à des jeux d'argent. Il y avait une tolérance qui a été donnée par la préfecture, par les préfectures là-dessus, mais avec cette loi, on a vraiment un cadre qui va être défini, ça va être reconnu par l'État, et du coup, les joueurs pro vont être également reconnus par l'État, ça va faciliter les visas, et ça va faciliter tout simplement l'expansion de l'e-sport en France.
Il a vraiment explosé. On le voit, en fait, si vous voulez, par les audiences qu'on peut toucher. C'est-à-dire qu'en France, on a fait une étude et on s'est aperçu que l'audience du sport électronique est équivalente à celle du rugby, sachant qu'on a à peu près 10 fois moins de budget. Donc ça nous laisse une belle marge de progression. On le voit aussi, en fait, aux marques, je vous en parlais tout à l'heure, qui arrivent dans notre secteur d'activité, qui sont de plus en plus larges et pas forcément celles qu'on connaît bien, qu'on appelle les usual suspects, qui sont les constructeurs périphériques, qui sont les fabricants de PC ou les éditeurs de jeux vidéo. Donc de nouvelles marques arrivent. Et puis ces marques, elles arrivent parce qu'en fait, on le voit dans les agences de communication traditionnelles et même de marketing sportif, il y a beaucoup d'agences qui créent une division spéciale pour accueillir leurs marques et qui leur demandent en fait comment on fait pour rentrer dans ce milieu. Vous avez aussi beaucoup d'agences de conseil qui commencent à se créer au niveau autour du monde du sport électronique, preuve étant que le secteur intéresse non seulement les médias, mais aussi les annonceurs traditionnels.
Il y a aussi les grandes entreprises telles que EDF ou encore la SNCF plus récemment qui ont créé une équipe d'e-sport.
C'est ça, qui s'investissent en étant en partenariat avec des équipes. La SNCF a créé leur team, la team locaux. Vous me parliez de EDF qui investit dans des équipes de sport électronique. Voilà, ces marques commencent vraiment à s'y intéresser et c'est en ça qu'on se dit que en 5 ans, ça a fait vraiment énormément de progrès. Et puis, on sait au niveau du gouvernement aussi un petit peu, ils se sont penchés sur notre sujet, c'est-à-dire que nous ne sommes plus considérés comme notre événement, je parle hein, comme des casinos, loteries, bingo. Les joueurs professionnels ont un statut reconnu qui est apparenté à celui des sportifs traditionnels. Voilà, tout est en train de se mettre en place pour faire de cette industrie quelque chose de légal, reconnu, intéressant, au même titre que le sont les sports traditionnels.
Aujourd'hui, cette émission sera consacrée à une enquête sur l'e-sport en région Centre-Val-de-Loire. Autour de nous, de nombreuses associations spécialisées dans la promotion du jeu vidéo et du sport électronique, telles que la League of Berry à Bourges, la Furilan à Tournan-Saint-Pierre, ou encore Origami à Orléans, organisent leur propre tournoi pour faire gagner des lots ou encore de l'argent.
Alors, donc moi, c'est Jean-Charles Griveaux, donc j'ai 30 ans, j'habite sur Orléans depuis maintenant 6 ou 7 ans, et puis je suis un passionné de jeux vidéo, depuis toujours, comme beaucoup de jeunes hommes de mon âge. C'est une passion partagée avec notamment deux amis à moi, dont un habite sur Orléans. Et on a voulu, à côté de notre travail respectif, monter une structure, monter un projet, monter quelque chose qui puisse nous faire travailler ensemble dans un domaine assez particulier, mais un domaine qui nous tient à cœur, qui est celui du jeu vidéo, celui de l'e-sport particulièrement. Et c'est donc pour ça qu'on a créé en mars 2015 l'association Origami, qui est donc l'association qui organise l'Orléans Game Show.
Quels événements organisez-vous ?
Alors, on organise l'Orléans Game Show, ça évidemment, c'est l'événement phare. Et on essaye depuis un an d'organiser d'autres petits événements. On a organisé notamment le Video Game Show à Saint-Cyr-en-Val. Et puis, on a également quelques propositions pour travailler dans des villes de l'agglomération orléanaise. Voilà, notamment avec des collectivités. C'est les mairies qui nous contactent généralement pour faire des projets.
Enfin, je vais revenir au festival Orléans Game Show. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la programmation pour cette 3e édition ?
Alors, l'Orléans Game Show, comme les 2 années précédentes, c'est un événement donc, qui a en son cœur de l'e-sport, donc deux compétitions e-sportives et tout autour un salon du jeu vidéo. Ce salon du jeu vidéo, il est ouvert gratuitement aux visiteurs. Donc ils peuvent venir à n'importe quelle heure du week-end, rentrer, c'est gratuit pour tout le monde et donc pouvoir participer aux différentes animations. Donc vous avez dans le palais des sports une partie qui est exclusivement réservée aux joueurs, donc le public ne peut pas y accéder pour pas qu'il soit dérangé ou perturbé durant leur compétition. Et tout le reste, c'est des stands qui sont à disposition pour le public. Et donc vous avez par exemple du rétro gaming, vous avez par exemple un atelier cosplay, vous avez de la réalité virtuelle, vous avez la possibilité de vous faire coacher sur FIFA ou sur un autre jeu, Dragon Ball Fighter Z. Vous avez aussi de l'overclocking. Vous savez, cette manière d'optimiser les performances de son ordinateur avec parfois de la glace carbonique ou de l'azote liquide. Vous avez tout un tas d'animations. Et puis sur scène, il y a un programme, vous pouvez le retrouver sur notre site, un programme pour tout le week-end avec, par exemple, des petits tournois sur scène à disposition du public, des petits quiz, du cosplay, des showmatchs avec des joueurs de l'USO Foot.
À noter que l'Orléans Game Show avait accueilli en mars dernier des compétitions de League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, Overwatch et Tekken 7. Autre événement dans la région, la DreamHack à Tours.
Alors, je suis donc Jean-Christophe Arnaud, j'ai 42 ans, je travaille dans le sport électronique depuis 2003. La DreamHack, en fait, en tant que telle, existe, elle, depuis 1994 en Suède, mais n'est arrivée en France qu'en 2015, pour la première fois, à Tours, au centre des congrès du Vinci, où on a fait 3 éditions, et on va entamer notre 4e cette année. Alors, la DreamHack, c'est quoi ? En fait, c'est un grand salon dédié aux jeux vidéo, qui repose sur 3 piliers, sur trois grands axes. Le premier, c'est la LAN Party, ça fait partie de l'ADN de la DreamHack. Alors LAN, ça veut dire, c'est l'acronyme pour dire Local Area Network, ça veut dire réseau local. C'est-à-dire que on a cette année 1800 joueurs qui vont venir avec leur PC ou leur mobile ou leur console jouer pendant 3 jours sur place. ils dormiront à l'hôtel ou sur place. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se fait depuis toujours. Ça, c'est la LAN party. Nous avons l'expo qui s'appelle la Dream Expo, où c'est un salon, par exemple, où les constructeurs de matériel, que ce soit des claviers, des casques, des souris, des PC, vont présenter les dernières nouveautés en termes de matériel de jeux vidéo. Les publishers, comme on appelle ça, les éditeurs de jeux vidéo présentent aussi leurs derniers jeux. Vous avez des revendeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons de plus en plus de marques non endémiques qui commencent à arriver dans ce salon. C'est-à-dire des marques qui ne sont pas issues de notre milieu. Concrètement, c'est des Orange, des Monster Energy, PMU, McDonald's. Voilà, ce genre de marques sont aussi intéressées parce qu'on a la même cible, même s'ils ne sont pas issus du milieu de l'informatique ou du jeu vidéo. Et enfin, le dernier axe, ce sont les compétitions au niveau professionnel et amateur, que ce soit national ou international, qui vont se jouer sur les différents auditoriums que nous avons recréés pour l'occasion au Grand Parc, au Grand Hall du Parc Expo de Tours. Voilà en gros ce que c'est qu'une DreamHack.
Le festival DreamHack aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochains à Tours. Pouvez-vous en dire un peu plus sur la programmation de cette 4e édition ?
Alors pour cette 4e édition, on va commencer comme d'habitude la veille pour les joueurs. Il n'y aura pas de public, mais les joueurs peuvent arriver le 18. Ils arrivent en général aux alentours de 16 ou 18 heures. Comme ça, ils peuvent se préparer, jouer la nuit et puis attaquer le matin, le samedi matin, le 19, tranquillement. Le public, pour lui, s'est ouvert à partir du 19, le samedi. Ils pourront venir, s'il n'y a pas trop de grève de train, je pense qu'ils prendront les mesures nécessaires dès le matin, pour découvrir le salon et les différentes compétitions qui vont commencer. Et en fait, plus le temps avance, en fait, quand on va passer au dimanche, puis au lundi, férié de la Pentecôte, on assistera le dernier jour au final. Même le dimanche, il y aura déjà quelques finales sur certains jeux, parce qu'on a 7 ou 8 disciplines qui vont se jouer en parallèle dans la LAN party et aussi sur les différents amphis. Donc pour les visiteurs, ils pourront voir la LAN, passer voir à quoi ressemblent 1800 joueurs qui jouent ensemble, le salon, découvrir les dernières nouveautés et les auditoriums pour assister, s'asseoir, regarder les compétitions de leurs jeux préférés, qui seront aussi de toute façon retransmises en direct sur Internet.
Quel jeu on pourra jouer lors de la DreamHack ?
Alors, les jeux les plus populaires, vous avez par exemple Counter-Strike, qui sera aussi l'affiche de notre événement avec 100 000 dollars à gagner. Là, c'est pas réservé au public, ils vont venir le regarder. Vous avez des jeux comme League of Legends, Shadowverse, Pokémon, PUBG, Fortnite, StarCraft. Vous avez en fait tous les jeux les plus populaires seront représentés là-bas.
À noter que la DreamHack accueille une des étapes de l'Open Tour France, le championnat du jeu League of Legends, et aussi les phases finales de la DreamHack Campus. Maintenant, laissons place à une première pause musicale, Warriors du groupe Imagine Dragon.
As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
De retour sur les ondes de Studio ZEF, nous allons poursuivre cette enquête sur l'e-sport en région Centre-Val de Loire avec la DreamHack Campus. Tout à l'heure, nous avons parlé de deux grands événements e-sport de la région, l'Orléans Game Show à Orléans et la DreamHack à Tours.
Vous organisez la DreamHack Campus en partenariat avec la région Centre.
Exactement.
Qu'est-ce que la DreamHack Campus concrètement ?
Alors la DreamHack Campus, c'était une volonté de la région Centre. C'est à noter parce que c'est la première fois qu'une région soutient le sport électronique, donc c'est très important, d'amener le sport électronique en région autour de Tours, enfin autour de Tours, en région Centre exactement. On a choisi 6 villes, Bourges, Orléans, Chartres, Blois, Châteauroux et Tours, qui ont reçu en fait tous les mois une étape de ce DreamHack Campus. Alors réservée aux étudiants, lycées, universités différentes, ils pouvaient sur deux jeux qui étaient Hearthstone et Clash Royale se défier, se rencontrer et être dans les mêmes conditions que des joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient filmés, il y avait une régie qui retransmettait en direct, les matchs étaient commentés, ils étaient sur une scène qu'on avait recréée de façon ad hoc dans chacun des endroits où on a pu aller, que ce soit via l'INSA ou l'Université François Rabelais. Et ils étaient dans les conditions réelles, c'est-à-dire qu'ils jouaient leur match concrètement comme des pros jusqu'à être qualifiés pour faire ces phases finales qui ont eu lieu pendant la DreamHack à Tours en mai.
Selon Pierre Commandeur, élu régional sur le numérique, lors d'une interview sur Connect eSport à propos de la DreamHack Campus.
Donc on a souhaité soutenir cet événement avec ce DreamHack Campus. L'idée c'est que on a déjà de nombreux visiteurs qui viennent de la région sur cet événement, mais il y a besoin encore de le faire connaître. Et donc ce DreamHack Campus, avec un événement dans chacun des départements de la région, permet de s'adresser aux universités, aux écoles d'ingénieurs et aussi aux médias locaux pour leur montrer ce que c'est que le e-sport, parce que ça reste encore assez obscur pour beaucoup de personnes, même si ça se développe de manière importante. Donc ça permet de montrer ce que c'est que le e-sport, de montrer ce que c'est qu'une compétition, là c'est une compétition amateur, de regarder un petit peu les moyens techniques qui existent autour, de regarder aussi les métiers qui existent autour.
Nous retrouvons Jean-Charles Griveaux, président de l'association Origami.
Que pensez-vous du fait que la région Centre s'intéresse au secteur du e-sport ?
C'est très bien, et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a une étude qui est en train d'être menée actuellement par la région Centre, parce qu'il y a à la région des élus qui ont cette sensibilité numérique, cette sensibilité concernant les nouvelles pratiques des jeunes. Mais il semble bien que l'e-sport c'est un marché en pleine expansion et qu'il y a un réel intérêt économique. Voilà. Donc c'est normal qu'une collectivité comme celle-ci puisse aider, on va dire, les jeunes start-up qu'il peut y avoir à Orléans, qu'il peut y avoir à Blois, qu'il peut y avoir à Tours, avec la French Tech Valley, qui puisse leur donner un cadre, les aider, leur donner de la visibilité. Et c'est très bien que la région Centre, et ça je tiens à saluer les élus qui ont pris ces initiatives, c'est très bien que la région Centre puisse soutenir cette étape parce que l'e-sport va devenir quelque chose de grand et d'important, et si la région Centre pouvait devenir pionnière, ce serait très bien pour nous.
Puis Jean-Christophe Arnaud, directeur de la DreamHack France.
C'est très bien parce que par rapport à d'autres régions, ils ont vraiment compris les premiers qu'il y avait quelque chose qui était très important. C'est-à-dire que la génération des millénials est très difficile à toucher, qui est volage, qui n'est pas forcément loyal à un média en particulier la télévision telle qu'on la connaît. Donc pour capter l'attention de ces millénials, le sport électronique est parfait parce qu'on les touche sur leur mobile, on les touche sur des plateformes internet comme Twitch ou YouTube. On répond et on arrive à les toucher plus facilement qu'avec les médias traditionnels, ce qui était très intéressant pour...
Solary TV, implanté notamment à Tours. Hein.
Alors, la Solary TV, pour le dire à vos auditeurs, c'est en fait un regroupement de 8 youtubeurs très connus qui ont décidé de s'installer à Tours. En fait, ils nous avaient expliqué qu'on n'était pas loin de Paris, le loyer était moins cher, et qu'ils avaient découvert en fait la ville de Tours durant la DreamHack et une précédente édition. Et ils s'étaient dit pourquoi pas venir ici. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent dans la Touraine et plus largement la région Centre pour s'implanter.
En France, il n'existe pas de réelle étude sur l'écosystème du e-sport. La région Centre-Val de Loire a mis en place une étude pour identifier les acteurs régionaux de l'e-sport et mettre en place des formations adaptées autour des métiers du e-sport. L'étude n'est pas encore terminée à ce jour et les résultats seront dévoilés ce week-end durant la DreamHack. Selon Pierre Commandeur, élu régional sur le numérique, lors d'une interview sur Connect eSport à propos de la DreamHack Campus.
L'idée, c'est de déterminer la chaîne de valeur dans ce, dans cette nouvelle économie et dans ce nouveau sport, puisqu'il y a évidemment les joueurs professionnels, ça c'est une évidence. Ça, on commence à avoir des belles équipes, mais il y a tous les métiers qui tournent autour.
Maintenant, laissons place à une seconde pause musicale. Stay Alive de l'artiste Litmob.
Gonna have to reach for new heights. And if I have to stand alone, I'm not afraid to face the throne. The enemy is all around. The walls crumble as I watch them fall down. Is this my final fantasy? Every single time I hear you sing. If I rise, I will not crash. I will not fall from first to last. Till nothing's left inside, down a broken path. With every breath and every stride, I still need you here by my side to take me by the hand. But once again, I'm blinded by the light. Breathe, won't back down from a fight. No, breathe, won't back down from a fight.
Nous allons poursuivre notre enquête sur l'e-sport en région Centre-Val de Loire. Nous avons parlé précédemment de la DreamHack Campus et aussi de l'étude menée par la région sur l'écosystème du e-sport. Avec l'arrivée de la DreamHack il y a 4 ans, de nombreuses structures se sont installées dans l'agglomération Tourangelle, que cela soit des médias spécialisés ou encore des bars e-sport.
Tours pourra-t-elle être la capitale du e-sport comme Angoulême l'est pour la bande dessinée traditionnelle ?
Voilà, typiquement, c'est vraiment ce que nous essayons de faire. Nous avons déjà la DreamHack, l'ESL, qui sont deux grosses ligues de jeux vidéo, Connect eSport, qui est un média comme Breakflip, ou même Solary, qui est en lui-même un média. On a Maxnomic, une société qui fabrique des chaises de gaming, le Meltdown, qui est un réseau de bars eSport. Voilà, on a de plus en plus d'acteurs qui sont présents dans cette région, et en fait, on essaye de fédérer un peu tout le monde dans les années qui viennent pour se dire, voilà, on a déjà des bases qui sont très solides comparativement à d'autres villes, d'autres métropoles, d'autres régions. Pourquoi ne pas en profiter et en faire un pôle d'excellence de l'e-sport, un cluster, enfin. Voilà, le but est vraiment de notre côté annoncé pour faire de la région une capitale de l'e-sport.
Prenons un exemple. Katowice, une ville polonaise, est devenue en l'espace de 5 ans une ville pionnière du e-sport. En 2013, le maire de Katowice décide d'organiser une compétition de jeux vidéo pour promouvoir le tourisme dans sa ville. Elle accueille tous les ans une compétition internationale orientée jeux de tir et jeux de stratégie en temps réel. Au fil des années, l'Intel Extreme Master Katowice est devenue une des plus grandes compétitions mondiales et a permis d'augmenter les revenus touristiques de la ville. L'exemple de Katowice inspire de nombreuses villes françaises dont Poitiers, Lyon ou encore Orléans qui souhaitent investir dans un tournoi de jeux vidéo. Selon Olivier Carré, maire d'Orléans, lors d'un dossier consacré aux jeux vidéo sur l'Express, faire d'Orléans un grand du foot européen serait financièrement inenvisageable. En revanche, cette ambition est tout à fait raisonnable dans le domaine du sport électronique. Cet intérêt pour les villes d'investir dans des compétitions de jeux vidéo montre que l'engouement du e-sport se fait à la fois au niveau mondial, mais aussi au niveau local.
Comment voyez-vous l'avenir d'Origami ?
Ça, c'est une bonne question. Origami, on a commencé il y a 3 ans. On était pas forcément sûr de ce que ça allait devenir. On a commencé par des compétitions de 40 joueurs dans un Warcraft. Là, on ambitionne de réunir 500 joueurs. Alors, il y a déjà le soutien de la mairie d'Orléans qui est très fort, qui nous permet de nous projeter avec une certaine sérénité. Ça veut dire qu'on est dans un environnement quand même qui nous a beaucoup favorisés. Donc ça, on les remercie beaucoup pour ça. Moi, je pense que l'association Origami, avec ce contexte favorable et cet écosystème favorable, on peut imaginer grandir encore, franchir des étapes. D'un côté, sur Roland Show, en faire vraiment un incontournable de l'e-sport français, voire au-delà. Donc s'inscrire dans les 3-4 plus grands événements français. Et l'association Origami, à côté de ça, qu'elle a vocation à faire de plus en plus d'événements à côté, qu'elle a vocation à faire découvrir l'e-sport et les jeux vidéo au plus large public. Pas forcément dans l'Orléanais, ça peut aussi, on peut se projeter, et peut-être que l'association aura un rayonnement qui va dépasser, je parle à côté de l'Orléans Game Show, qui peut dépasser le cadre du Loiret et la région centre, à voir. Je pense qu'actuellement, il y a un certain décalage entre l'image et, on va dire, le bruit au sens médiatique que produit l'e-sport et la réalité économique. C'est-à-dire que actuellement, il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent dans le domaine de l'e-sport et dans l'univers du gaming, qui ont une énorme audience et qui ont cette capacité à faire énormément de bruit médiatique. Mais ce bruit médiatique n'a pas de corrélation directe avec le poids économique. Par exemple, je sais pas, mais je peux faire un parallèle. Vous allez avoir la grande distribution qui a un poids économique énorme, mais sur les réseaux sociaux, ils font assez peu de bruit. Et à l'inverse, vous avez le gaming, qui côté e-sport, qui va faire énormément de bruit, mais je suis pas sûr qu'il y ait un rapport juste et équitable avec le poids économique. Donc il y a un décalage, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui essayent de se créer en disant « ouais, ça fonctionne, etc. » mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que pendant 5 ans, 6 ans, il y a encore des modèles économiques qui vont se chercher. Ça va encore être un cimetière pour certaines entreprises. Mais dans tous les cas, il y a une réelle volonté de la part des joueurs. Il y a un engouement qui s'est créé. Je pense pas qu'il y aura moins joueurs demain et après-demain. C'est quelque chose qui va continuer, qui va s'amplifier et qui va se structurer. Et je pense que d'ici 5-10 ans, on aura des compétitions tout à fait similaires à ce qu'on peut voir dans le sport classique. Alors, peut-être pas tout à fait similaire, mais je pense qu'il y a un grand avenir pour l'e-sport. Les JO, peut-être pas, mais dans tous les cas, ça va continuer d'intéresser de plus en plus de monde, j'en suis convaincu.
Comment voyez-vous l'avenir de la DreamHack France ces prochaines années ?
Bien, écoutez, on grossit. Déjà, dès la première édition, on poussait un peu les murs en termes de place pour la LAN party, pour les exposants qui sont dans le salon. Donc, ça se passe plutôt bien. On fait un nouveau step cette année, on franchit une nouvelle étape en passant du Centre international des congrès Vinci, qui est au centre de Tours, qui est un palais des congrès, au parc des expos, au grand hall de Tours. Donc voilà, on prend plus de place, on va accueillir plus de visiteurs, tout est bien parti, et on a créé aussi à cette occasion une filiale. C'est-à-dire que la DreamHack, c'est un groupe suédois qui est détenu par le groupe de médias MTG, Modern Time Group, et ils ont décidé, en fait, avec nous, de créer une filiale en fin d'année dernière, en octobre 2017. Donc c'est DreamHack France SAS, qui est une filiale du groupe, qui prouve bien qu'il y a un réel intérêt pour eux à s'implanter dans chaque pays, avec pas seulement un partenaire qui posséderait une licence, mais avec une filiale et des employés qui peuvent travailler à plein temps sur chacun des projets dans chaque pays.
Sur l'avenir du e-sport en général,
On le voit, en fait, j'en parlais tout à l'heure, en termes d'audience ou en termes d'investissement, c'est un marché qui pèse de plus en plus lourd, qui intéresse de plus en plus de monde, qui se professionnalise énormément. On arrive à trouver tout le spectre, tout le panel de métiers qui existent dans l'industrie traditionnelle. Vous avez des commerciaux, vous avez des gens qui recrutent, des agences de conseil, vous avez des coachs, des entraîneurs, des streamers, des réalisateurs, même des masseurs pour certains des joueurs, des ostéos et des kinés qui se sont engouffrés dans la brèche. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de se créer, et c'est pas une bulle. On sent bien que les bases sont solides, qu'au niveau de l'audience, on rattrape la télé, que le marché du jeu vidéo en lui-même déjà pèse plus que celui du cinéma et de la musique réunis. Donc c'est quelque chose qui est là pour durer.
Nous remercions Jean-Charles Griveaux, président de l'association Origami, et aussi Jean-Christophe Arnaud, directeur de la DreamHack France, pour leur intervention. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur Studio ZEF.